de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant le journal d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie avec moi Audrey. Je vais vous présenter quelques événements importants, entre autres. Les pêcheurs de Rembang sont prêts à se rendre à Natuna avec une demande de garantie de sécurité. Le ministre de l'Agriculture, les infrastructures régionales sont très importantes pour soutenir l'agriculture nationale. Le président Joko Widodo se rendra aux Émirats Arabes Unis. La priorité est la coopération énergétique. À la fin janvier, l'Indonésie et l'Union européenne tiendront une consultation sur les différends sur le nickel à l'Organisation mondiale du commerce OMC. Serge Littard, voici les nouvelles incomplètes. Les pêcheurs de Rembang sont prêts à se rendre à Natuna avec une demande de garantie de sécurité. Les pêcheurs de la région de Rembang dans le centre de Java ont déclaré leur volonté de pêcher dans les eaux de Natuna, dans la province des îles Riau, ainsi que de maintenir la souveraineté de l'État unitaire de la République d'Indonésie avec des garanties de sécurité pendant la pêche. C'est ce qu'a déclaré mardi le président de l'Association des pêcheurs d'Ampo Awang de la Régence de Rembang, Bangkit Suyoto à Rembang. En plus de demander des garanties de sécurité, il espère également que le gouvernement fournira une politique spéciale relative au prix du carburant pour les pêcheurs qui veulent se rendre en mer à Natuna. Les pêcheurs ont également demandé des garanties que les pêcheurs locaux ne se sentent pas offensés par la présence de pêcheurs de Pantura, car auparavant les pêcheurs locaux n'acceptaient pas la présence de pêcheurs de l'extérieur de cette région. Il y a environ 400 navires de plus de 80 tonnes brutes de la région de Rembang qui sont prêts à aller à la mer à l'île de Natuna. Le ministre de l'Agriculture, les infrastructures régionales sont très importantes pour soutenir l'agriculture nationale. Le ministre de l'Agriculture, Sahrul Yassin Limpo, a souligné que l'état de préparation des infrastructures dans les régions était une des capacités soutenant le développement agricole national, y compris dans la région du sud de Sumatra. Après avoir reçu la visite du gouverneur de Sumatra du Sud, Herman Deru, au complexe de la résidence du ministre de Kebayoran Baru, Jakarta, mardi, Sahrul Yassin Limpo a déclaré que la construction du système de grappes agricoles nécessite des infrastructures adéquates. Cela a été dit par Sahrul Yassin Limpo à travers des informations reçues mardi à Antara. À cette occasion, le gouverneur du sud de Sumatra, Herman Deru, a expliqué a expliqué que le sud de Sumatra s'est développé maintenant. Il a ciblé la réflexion des routes sous l'autorité du gouvernement provincial, achevée à la fin de 2020. Selon Herman Deroux, les produits agricoles du sud de Sumatra, tels que le riz et le café, ont un large potentiel d'exportation. Par conséquent, il veut l'envoyer directement du sud de Sumatra via les ports possédés, en raison du potentiel naturel et de superficie des terres dans le sud de Sumatra. Il est très potentiel pour le développement de cultures vivières et de produits de plantation. Le président Joko Widodo se rendra aux Émirats arabes unis. La priorité est coopération énergétique. Le président Joko Widodo effectuera sa première visite de travail en 2020 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, en mettant l'accent sur le renforcement de la coopération dans le secteur économique et énergétique qui devrait aboutir à un accord d'investissement d'une valeur de 18,8 milliards de dollars américains. Le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré mardi à Jakarta que le principal objectif du président pour Abu Dhabi était une réunion bilatérale avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, et le vice-président d'Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le 11 et 13 janvier 2020. Selon lui, cette visite officielle de travail s'est concentrée sur la coopération en matière d'investissement dans les domaines du pétrole et du gaz et des minéraux. En substance, tous les accords possibles et la valeur d'investissement sont en cours de calcul. Retenons à ajouter que Jokowi devait également être le conférencier principal à la Semaine durable d'Abu Dhabi. Aux Émirats arabes unis, le chef de l'État parlera de développement économique et de durabilité énergétique. À la fin janvier, l'Indonésie et l'Union européenne tiendront une consultation sur le différend sur le nickel à l'Organisation mondiale du commerce, OMC. L'Indonésie se prépare à tenir une réunion de consultation pour discuter de la politique indonésienne en matière de minéraux et de charbon avec l'Union européenne. La préparation de cette réunion de consultation a été discutée lors d'une réunion de consolidation entre les ministères du commerce et le ministère des Affaires étrangères et les ministères ou institutions concernées et les parties prenantes du secteur minier, qui a eu lieu mardi 7 janvier au ministère du commerce à Jakarta. La réunion de consultation entre l'Indonésie et l'Union européenne aura lieu le 30 janvier 2020 au bureau de l'Organisation internationale du commerce, OMC, à Genève, en Suisse. Auparavant, le 29 novembre 2019, l'Indonésie a accepté une demande de consultation de l'Union européenne dans le cadre de l'OMC pour discuter des politiques indonésiennes en matière de minéraux et de charbon. Cette réunion de consultation est la suite du procès de l'Union européenne concernant la politique d'exportation de nickel de l'Indonésie. Le vice-ministre de Commerce, Jerry Sambuaga, a déclaré qu'actuellement, l'Indonésie renforce la coordination entre les ministères pour explorer et préparer la position de l'Indonésie dans ses relations avec l'Union européenne à l'OMC. La France avertit ses citoyens de ne pas se rendre en Iran et en Irak. Le porte-avions français Charles de Gaulle sera déployé pour soutenir les opérations d'éradication de l'État islamique d'Irak et de Syrie, ISIS. Le gouvernement français a averti mardi ses citoyens de ne pas se rendre en Iran et également en Irak, compte tenu de la situation sécuritaire très instable. Le ministère des Affaires étrangères a également fait appel aux citoyens français qui n'avaient pas temporairement quitté ces pays et ont été très prudents. Selon les communiqués, il leur a été demandé de limiter les voyages en Iran et également en Irak à éviter les réunions. L'autorité britannique a averti ses citoyens d'éviter tout voyage en Irak, en dehors de la région du Kurdistan. Il a également demandé de ne pas se rendre en Iran, sauf si cela était important. Après la mort du commandant iranien Qassem Soleimani à Bagdad, le ministère néerlandais des Affaires étrangères a également appelé ses citoyens à quitter Bagdad, si cela est possible de manière sûre. Iran, la sécurité américaine au Moyen-Orient est en danger. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que les intérêts et la sécurité des États-Unis au Moyen-Orient étaient en danger. Il a déclaré lors d'une conversation téléphonique avec le président français Emmanuel Macron mardi 7 janvier. Les États-Unis doivent savoir que leurs intérêts et leur sécurité dans la région sont en danger et ils ne peuvent être séparés des conséquences de ce grand crime. Rouhani a été cité par le site internet du Times of Israel, a dit que le grand crime dont parlait Rouhani faisait référence à la décision de Washington de tuer le commandant du général de division Quds, le général Qassem Soleimani. Il a souligné que l'Iran n'a jamais voulu la guerre au Moyen-Orient, mais a dit Rouhani, l'Iran n'a pas hésité à défendre ses droits et sa souveraineté. L'Union européenne empêche l'Iran de violer l'enrichissement d'uranium. L'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France s'efforcent dur pour poursuivre les pourparlers avec l'Iran sur l'accord nucléaire de 2015. Cet effort a été fait lorsque l'Iran obérait la limite de l'enrichissement d'uranium. Dans une déclaration conjointe publiée avec l'annonce de l'enrichissement par l'Iran, la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Boris Johnson ont déclaré mardi qu'il y avait un besoin urgent de désescalade. C'est la déclaration commune se référant à l'accord du plan d'action conjoint global mardi 7 janvier. Dans le même temps, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne tiendront une réunion d'urgence à Bruxelles pour discuter des moyens de sauver l'accord par la pression si nécessaire. Cet effort est une étape qui peut conduire à la nouvelle application des sanctions américaines contre Téhéran. Chers auditeurs, c'était les nouvelles d'aujourd'hui.
C'est Xavier Lantaine après le journal. Maintenant, nous vous présentons le commentaire et pour le titre « Contrôler le prix du gaz industriel ». Depuis 2016 jusqu'à présent, le prix élevé du gaz pour l'industrie est toujours un obstacle à la croissance de l'industrie nationale. Le prix du gaz industriel qui atteint 9 à 11 dollars américains par million de British Thermal Unit ou MMBTU en Indonésie est le plus élevé à l'ASEAN. Pourtant, le règlement présidentiel numéro 40 en 2016 a mandaté que les ventes maximales de gaz pour l'industrie étaient de 6 dollars américains par MMBTU. Ce fait a inquiété le président Widodo et l'a exprimé lors de la réunion limitée sur la disponibilité du gaz pour l'industrie au bureau du président à Jakarta lundi le 6 janvier. Le président Widodo propose trois solutions pour surmonter le problème des prix élevés du gaz pour les besoins industriels. La première solution consiste à réduire la part du gouvernement du résultat de l'entrepreneur du contrat de coopération. Selon le président, cette méthode peut faire baisser les prix du gaz. Il y a un quota gouvernemental de 2,2 dollars américains par MMBTU. Si le quota gouvernemental est réduit, même éliminé, le prix sera moins cher. La deuxième façon consiste à imposer une politique d'obligation de marché intérieur, à savoir l'obligation pour une entité commerciale ou un établissement stable de remettre une partie du pétrole et du gaz et de sa partie à l'État par l'intermédiaire de l'agence d'exécution. La troisième méthode consiste à exonérer les droits d'importation de gaz pour faciliter l'industrie. Le président a donné le temps aux responsables connexes jusqu'en mars de cette année pour presser immédiatement le prix du gaz industriel. Le président Widodo est déçu du prix du gaz industriel qui ne baisse jamais. il y a 6 secteurs industriels en Indonésie qui utilisent 80% du gaz pour leur production, à savoir l'industrie chimique, l'industrie alimentaire, l'industrie céramique, l'industrie sidérurgique et l'industrie des engrais et l'industrie du verre. Le prix élevé du gaz a une grande influence sur la compétitivité des produits industriels indonésiens sur le marché mondial. Les produits indonésiens ne peuvent rivaliser avec les produits d'autres pays uniquement en raison des prix élevés du gaz. La faible compétitivité des produits affectera également l'emploi disponible, plus divers autres problèmes. L'histoire de ce problème interdépendant est le faible bien-être de la population. L'option offerte par le président Joko Widodo devrait résoudre le problème des prix élevés du gaz industriel. Mais il est également important pour le gouvernement d'examiner s'il y a des personnes qui jouent dans ce secteur, ce qui rend le prix du gaz industriel cher pour le profit d'eux-mêmes et de leur groupe. Chers amis, c'était le commentaire pour ce soir. Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le 8 janvier 1912. Création du Congrès national africain. Le Congrès national africain est un parti politique en Afrique du Sud. Ce parti a été fondé le 8 janvier 1912 à Bloemfontein pour protéger les droits de la majorité noire. Certains fondateurs sont Albert Luthuli, poète et auteur Sol Plaatje et John Dub. John Dub est le premier président du Congrès national africain. L'autre information est sur l'otage de Mapu de Moi le 8 janvier 1996. Le 8 janvier 1996, à Mapenduma, Jayawijaya, 26 membres de l'équipe d'expédition de Lawrence 95 ont été pris en otage par l'organisation de Papua Indépendant dirigée par Kelly Kualik. Cet événement a levé le nom de Kualik dans le monde international, car le membre d'expédition Lawrence 95 était également composé des citoyens internationaux. Cette prise d'otage a entraîné les deux otages morts et également un accident de tir de Timika 1996 qui a tué 16 personnes. Cet événement s'est terminé après 130 jours au cours de l'opération de la libération de l'otage de Mapenduma par Kopassus dirigé par Prabowo Subianto le 9 mai 1996. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement l'accident d'un avion du vol C-34 Turkish Airlines. Le vol C-34 de Turkish Airlines était un vol antérieur régulier de Turkish Airlines de l'aéroport d'Istanbul Atatürk à Diyarbakir dans le sud-est de la Turquie le 8 janvier 2003 à 19h UTC. L'avion effectuant le vol en aéronef British Aerospace Avro RJ-100 a percuté le sol à l'approche finale à environ 900 mètres du seuil de piste par mauvais temps. Lors de la collision suivante avec une pente, un incendie a éclaté après la collision tuant 75 des 80 occupants, dont les deux pilotes. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Melewati hari tanpa dirimu. Jangan cinta aku. Aku tak ada waktu untuk pikirkan diriku, karena aku sibuk memikirkan kamu. Aku tak ada waktu untuk diri sendiri, karena aku sibuk menjagamu. Tetap milikku, siang bahkan malam, hanya kamu yang ada di benakku. Dan aku tak pernah bisa melewati hari tanpa dirimu. Aku tak ada waktu untuk pikirkan diriku, karena aku sibuk memikirkan kamu. Aku tak ada waktu untuk diri sendiri, karena aku sibuk menjagamu. Dunia, selama kau ada di sampingku, tak pernah ku mau berpaling dari cintamu padaku.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Sibouk chantée par Abdul et Kofi Théori. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie. Chers fidèles auditeurs, auditrices, c'est maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre Bali cible 1 million de bovins en 2025. Le ministre de l'Agriculture, Syahrul Yasin Limpo, soutient pleinement le programme de la province de Bali pour atteindre 1 million de bovins de Bali en 2025. Cela a été confirmé lors de la signature de trois protocoles d'accord entre le ministère de l'Agriculture et le gouverneur de Bali à Denpasar le 4 janvier dernier. L'un des protocoles d'entente concerne la population d'un million de bovins de Bali, soutenant le programme appelé La Vase, le Buffalo, les principales marchandises de l'État. Selon le ministre Syahrul, Bali est une province qui possède un grand potentiel agricole et d'élevage. Avec ce protocole d'accord, le ministère de l'Agriculture soutiendra pleinement les programmes d'agriculture et d'élevage à Bali. Dans une déclaration écrite reçue par les médias lundi le 6 janvier, le ministre Syahrul a déclaré que le protocole d'accord visait à accroître le développement agricole vers une agricole avancée, indépendante et moderne. En outre, le ministre Syahrul a également exprimé son espoir qu'à l'avenir, cette production agricole puisse être exportée avec une production et une productivité accrue. Cette étape est conforme au mouvement des exportations trois fois. Pendant ce temps, le gouverneur de Bali, Wayan Koster, a déclaré que la province de Bali est une province basée sur l'agriculture et l'approvisionnement alimentaire est l'un des principaux programmes à l'heure actuelle. Selon le gouverneur, le soutien du ministère de l'Agriculture pour accroître la production et la productivité agricole à Bali est très important pour aider les programmes des gouvernements locaux et le peuple de Bali. Wayan Koster a ajouté que Bali est riche en produits agricoles locaux tels que les oranges, le zelaka, le café, les vases, les chèvres, etc. Mais ces produits n'ont pas été optimisés de manière optimale. À l'avenir, nous espérons que le ministère de l'Agriculture contribuera à optimiser ce potentiel. Concernant spécifiquement le programme d'un million de bovins de Bali en 2025, le directeur général de l'élevage et de la santé animale, Iketut Dirmeta, a déclaré que l'objectif peut être atteint s'il y a une augmentation du nombre de bêtes de 30 à 45% de la population actuelle et soutenu par une augmentation des naissances de veaux par 80 à 85% du nombre de bêtes. Pendant ce temps, le taux d'abattage des bêtes femelles productives à Bali devrait être réduit de 5 à 10% par rapport à l'abattage actuel enregistré. Et le taux de mortalité des veaux-nés devrait être réduit à moins de 5%. Serge Ritor, c'était mon Indonésie pour ce soir.
I wanna love you, girl. Aku temukan sebuah cinta yang ku nantikan. Ternyata engkau yang selalu ku tunggu. Hiasi hatiku, baby you know me. Betapa indah sanubarimu. Untuk diriku, kau mengubah hidupku. Kembalikan rindu. This be that real love I've been missing before I met you.
Serge Ritor, c'était la deuxième chanson intitulée Knock Me Out, chantée par Afghan. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Serge Ritor, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la santé locale du peuple indonésien. Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans votre rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons Le Mont Tangkuban Perahu. Le mont Tangkuban Parahu, avec 2084 mètres de haut, est l'une des montagnes de la province de l'Ouest de Java. Il est situé à 20 km au nord de la ville de Bandung, qui est décoré de pins et de plantations de thé entourant la montagne. Le mont Tangkuban Parahu est populaire auprès de la légende de Sangkuriang. La montagne est un volcan actif dont le statut est surveillé en permanence par la Direction indonésienne de la volcanologie. Certains de ses cratères indiquent encore des activités actives. Ici, nous pouvons voir gaz sulfureux et des sources chaudes au pied de la montagne comme Ciater Asubang dans la province de Java West. La population locale et le gouvernement municipal de Bandung utilisent les sources chaudes comme objet touristique. Les sources chaudes qui coulent autour de la montagne contiennent du soufre qui pourrait guérir divers types de maladies de la peau. La montagne Tangkuban Parahu s'est formée il y a environ 90 000 ans à Caldera Sunda. Selon Teh Bahtiar et Dewi Safriani dans le livre de Bandung Ancien, la montagne est le plus jeune que la Mont Burangrang. Tout au long de son histoire, les activités qui se sont déroulées au Mont Tangkuban Parahu ont formé 13 cratères. Trois cratères d'entre eux sont populaires comme destination touristique, à savoir le cratère Ratu, le cratère Upas et le cratère Domas. Cet objet touristique présente un beau panorama naturel. De plus, l'ambiance à la montagne est fraîche, ce qui nous fera rester plus longtemps. En moyenne, la température à la montagne est de 17 degrés l'après-midi et de 2 degrés la nuit. Le mont Tangkuban Parahu est approprié pour vous qui avez un passe-temps d'aventure, d'exploration naturelle ou de photographie. Donc, nous vous suggérons de prévoir ampoule et des chaussures confortables si vous souhaitez visiter la montagne. Veuillez suivre les règles ici car il y a des cratères dont la fumée est toxique et il est interdit aux visiteurs de se rapprocher. Le mont Tangkuban Parahu est une zone forestière protégée et sa durabilité et son air frais sont toujours préservés. Donc, si vous souhaitez visiter cet objet touristique, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Car pour entrer dans le complexe d'objets touristiques, vous ne payez que le billet d'une valeur de 15 000 rupiah à 30 000 rupiah. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel aujourd'hui, intitulé Le Mont Tangkuban Parahu. Nous nous rencontrerons demain avec un autre sujet plus intéressant encore. À demain!
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Bersama kawanku, umat hamba Tuhan. bersatu untuk kelestarian alam. Bumi kita ini taman kehidupan. Hutan dan lautan di relung langit biru. Mari kita bersama cegah kerusakan. Bersatulah wahai bangsa sedunia. Bersatu, bersatulah kawan. Bersatu dunia untuk bumi kita. Lakukan, mari kita lakukan. Bergandengan tangan untuk menjaganya. Tengadahkan tangan memohon pada Tuhan. Selamatkanlah anak cucu semua. Bumi kita ini taman kehidupan. Hutan dan lautan di relung langit biru. Mari kita bersama cegah kerusakan. Bersatulah wahai bangsa sedunia. Bersatu, bersatulah kawan. Bersatu dunia untuk bumi kita. Lakukan, mari kita lakukan. Bergandengan tangan untuk menjaganya. Tengadahkan tangan memohon pada Tuhan. Selamatkanlah anak cucu semua.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Sandy Sundoro intitulée « Untuk Bumi Kita ». Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la suivante, voici donc « Apprendre l'Indonésien ».
Bonsoir à tous, bonsoir tous les amis. On se retrouve dans l'émission « Apprendre l'Indonésien ». Une rubrique qui vous introduit les vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radio diffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence du développement et du renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est « Menanyakan tujuan ». Menanyakan tujuan en français, demander la raison. Bonne écoute. Sagittaire, le sujet d'aujourd'hui est demander la raison. Avec l'objectif, après avoir fait écouter cette édition, les apprenants peuvent répondre à des questions reliant d'exprimer la raison. Le personnage, il y a Kevin et l'agent d'immigration. Le lieu à l'immigration de l'aéroport et la situation, l'agent d'immigration demande la raison de visite de Kevin. La suite de l'atmosphère, c'est le bruit de l'entourage à l'aéroport.
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Ini paspor saya, Pak.
Ya. Apa tujuan Anda datang ke Indonesia?
Saya datang ke Indonesia untuk kuliah.
Baik.
Après avoir fait écouter la conversation ci-dessus, je vais vous présenter les expressions et les vocabulaires reliant avec le sujet d'aujourd'hui. Demandez la raison. Apa. Apa. Quel. Tujuan. Tujuan. Raison. Datang. Datang. Visite. Saya. Saya, je, untuk, untuk, pour, kuliah, kuliah, étudier. Apa tujuan Anda datang ke Indonesia? Apa tujuan Anda datang ke Indonesia? Quelle est la raison de votre visite en Indonésie? Saya datang ke Indonesia untuk kuliah. Saya datang ke Indonesia untuk kuliah. Je viens en Indonésie pour étudier. Serge Littard, dans la conversation, l'agent d'immigration a demandé quelle est la raison de la visite de Kevin en Indonésie, utilisant la phrase « Apa tujuan Anda datang ke Indonesia ?»« Apa tujuan Anda datang ke Indonesia ?» Vous pouvez changer la phrase « Apa tujuan ?»« Pour quelle raison ?» avec la phrase « Untuk apa ?» Untuk apa? Ou bien pourquoi? Par exemple, untuk apa Anda datang ke Indonesia? Untuk apa Anda datang ke Indonesia? En français, pourquoi vous venez en Indonésie? Le mot untuk est un mot utilisé pour exprimer le but. Cher auditeur, pour répondre à la question de raison, vous pouvez utiliser le mot untuk suivi par votre raison. Écoutez les exemples suivants. L'agent d'immigration. Apa tujuan Anda datang ke Indonesia? Apa tujuan Anda datang ke Indonesia? Pour quelle raison vous venez en Indonésie? Kevin, saya datang ke Indonesia untuk kuliah. Saya datang ke Indonesia untuk kuliah. Je viens en Indonésie pour étudier. Agent d'immigration. Apa tujuan Anda datang ke Indonesia? Apa tujuan Anda datang ke Indonesia? Pourquoi vous venez en Indonésie? Kevin. Untuk bekerja. Untuk bekerja. Pour travailler. Chers amis, voici les exemples pour demander la raison avec la réponse donnée. L'agent d'immigration. Untuk apa Anda datang ke Indonesia? Untuk apa Anda datang ke Indonesia? Pour quelle raison vous venez en Indonésie? Kevin, untuk kuliah. Untuk kuliah. Pour étudier. L'agent d'immigration. Apa keperluan Anda datang ke Indonesia? Apa keperluan Anda datang ke Indonesia? Pour quelle raison vous venez en Indonésie? Kevin, saya mau kuliah di Jakarta. Saya mau kuliah di Jakarta. Je voudrais étudier à Jakarta. L'agent d'immigration. Ada perlu apa datang ke Indonesia? Ada perlu apa datang ke Indonesia? Pour quelle raison vous venez en Indonésie? Kevin. Saya mau kuliah di Jakarta. Saya mau kuliah di Jakarta. Je voudrais étudier à Jakarta. Chers auditeurs, cette édition, il y a la rubrique de coin de culture. Les Indonésiens aiment généralement faire des petits discours pour entretenir des relations sociales. Certaines personnes pensent que le bavardage est une forme d'hospitalité. La suite, point de repère. Le monument de Pancasila Sakti. Le monument Pancasila Sakti est situé dans la région de Lubang Buaya, à l'est de Jakarta. Ce monument a été érigé le 1er octobre 1973 par l'ancien président Suharto afin d'honorer et de commémorer les services des héros de la Révolution. La forme du monument a la forme de cette statue des héros de la Révolution avec une statue de l'oiseau Garuda derrière. Sergiteur, avant de terminer apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Ini paspor saya, Pak.
Ya. Apa tujuan Anda datang ke Indonesia?
Saya datang ke Indonesia untuk kuliah.
Baik.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci beaucoup d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Keyakinan bisa masalah pun tak sama ku tak ingin dia ragu mengapa mereka selalu bertanya cintaku bukan di atas kertas cintaku getaran yang sama tak perlu dipaksa tak perlu dicari karena ku yakin ada jawabnya oh, andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka tapi tak mungkin ku tak berdaya hanya yakin menunggu jawabnya janji terikat
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Bukan Cinta Biasa, chantée par une chanteuse malaise, Siti Nurhaliza. Vous êtes toujours avec nous, Voice Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Bon, chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique Magazine Musical, je vais vous présenter une chanson traditionnelle de Sulawesi centrale, Topé Gugu. Topé Gugu est une chanson sur le courage des héros et des combattants de Palu, dans le centre de Sulawesi. Topé Gugu est souvent chanté lors d'événements ou de compétitions musicales dans la région centrale de Sulawesi. La chanson Topé Gugu a également été chantée à l'étranger, à Danemark, aux Pays-Bas, lors du festival Tonton 2017 et du festival du film asiatique 2018 à Rome, en Italie. Plus précisément, au festival du film asiatique 2018, un groupe de l'ambassade d'Indonésie à Rome a chanté Topé Gugu afin de soutenir Palu, qui a ensuite été frappé par le tremblement de terre, le tsunami et la liquéfaction. Chers auditeurs, voici la chanson Topé Gugu, chantée par Zaro Ananta. Bonne écoute.
Topé, topé, gugu, topé. Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.